RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Assemblée consultative du peuple invite les citoyens à voter lors des élections générales. La maire de Surabaya demande aux citoyens de se préparer à la concurrence mondiale. Le 7e Congrès international de cités et gouvernements locaux unis, ou CGLU, Asie-Pacifique, devrait aborder des problèmes de la ville. Le vice-président Yusuf Kalla est optimiste que l'Indonésie peut obtenir plus de 16 médailles d'or. Kulon Progo cible l'augmentation de la visite des touristes de 200%. Le ministère des Transports effectue des étapes préparatoires pour Selmoyo Tambora. Le festival de Krakatau introduit Lampung au monde. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, M. Hidayat Nur Wahid, a déclaré que la souveraineté était dans les mains du peuple. C'est pourquoi il invite le peuple indonésien à voter lors des prochaines élections générales en 2019. Ce sont les gens qui détermineront l'Indonésie qui est meilleure à l'avenir. Hidayat Nur Wahid l'a dit après la socialisation des quatre piliers de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, et la coopération de l'Assemblée consultative du peuple et du chef de centre de la jeunesse de Muhammadiyah à Cipanas, Java Occidental, samedi. Dans cette socialisation, Hidayat a également affirmé l'importance de comprendre la souveraineté des gens conformément aux dispositions de la Constitution et les sens des élections générales. Selon lui, à travers des élections de qualité, une élection présidentielle qualifiée présentera des membres du conseil de qualité, des dirigeants nationaux qualité. Ainsi, avec cette façon, l'Indonésie peut être héritée aux futures générations. Le maire de Surabaya, Mme Tri Risma Harini, a demandé aux résidents de Surabaya d'être prête à faire face à la concurrence économique mondiale en 2020. Si les résidents ne préparent pas à partir de maintenant, il sera devenu une catastrophe démographique. Elle a déclaré à Surabaya Java Est dimanche que depuis 2010, le gouvernement de la ville de Surabaya a préparé des programmes de renforcement économique face à la concurrence mondiale, entre autres le programme d'autonomisation des femmes, les héros économiques et les jeunes guerriers. Selon le directeur de l'Association internationale du réseau Global Entrepreneurship, Sarolta Borzas, ces programmes sont un succès à aider l'économie des résidents de Surabaya. Cela a été dit par Sarolta Borzas à Surabaya samedi. Selon lui, depuis le lancement de ce programme, la communauté a été introduite au concept d'encourager les petites et moyennes entreprises à avoir des entreprises en utilisant la technologie numérique. À travers ce programme, le gouvernement municipal peut établir une bonne coopération avec diverses parties. Le maire de Surabaya, Mme Tri Risma Harini, a souhaité que le 7e Congrès international de cités et gouvernements locaux unis, ou CGLU Asie-Pacifique, tenu à Surabaya du 11 au 15 septembre, puisse donner une solution aux problèmes de la ville. Ceci est conforme au thème du 7e Congrès de CGLU, à savoir développement de l'innovation pour des villes durables. Selon elle, on a choisi ce thème car il y a tant de problèmes de la ville qui devraient être résolus ensemble. Madame Tri Risma Harini à Surabaya, Java Est, le dimanche, a déclaré que le congrès tous les deux ans réunira les dirigeants locaux et les acteurs clés dans le développement des pays d'Asie-Pacifique, comme les universités et l'organisation non gouvernementale. En outre, elle a invité les délégués à apprendre des choses dans la ville de Surabaya, comme la ville intelligente, la gestion de l'hygiène, la salle centrale pour servir les résidents qui face aux problèmes familiaux et divers autres services administratifs. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président indonésien, M. Yusuf Kalla, a déclaré que l'Indonésie, comme l'autre, était optimiste de remporter l'objectif le top 10 des Jeux asiatiques 2018 peut être réalisé. Selon lui, le vice-président, en voyant le temps restant disponible, l'Indonésie peut attendre un minimum 16 médailles d'or en accord avec la cible. L'Agence nationale des nouvelles de la radio indiquait la mise en œuvre des Jeux asiatiques qui s'est déroulée pendant 10 jours après son ouverture le 18 août jusqu'à aujourd'hui. Le vice-président à l'aréna de volleyball de la place à Palembang dans le sud de Sumatra a confirmé que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obstacles. Certaines parties de Chine, de Singapour et de Malaisie ont déclaré que la mise en œuvre à Palembang et à Jakarta était très bonne. L'Office du tourisme de Kulon Progo, en région spéciale de Yogyakarta, prévoit que les arrivées des touristes, tant étrangers que nationaux, augmenteront de 200% après la mise en service du nouvel aéroport international de Yogyakarta. Cela atteint 51 000 par an. Comme écrit par Antara Agung Kurniawan, responsable du bureau de tourisme de la région de Kulon Progo, a affirmé dimanche que le nombre de touristes étrangers visitant Kulon Progo était encore relativement faible. Cette année, les touristes locaux visitent environ 90%, alors les touristes étrangers ne sont que 10%. Pour cette raison, l'opération du nouvel aéroport international de Yogyakarta devrait accroître les touristes étrangers et nationaux. Le ministre indonésien des Transports, M. Budi Karya Sumadi, a déclaré qu'il procéderait à plusieurs étapes préparatoires pour soutenir l'événement international de tourisme maritime, à savoir Sail Moyo Tambora 2018, qui se tiendra en septembre 2018. Le ministre Budi Karya Sumadi, lors de sa visite au port de Badas dans la région de Sumbawa, a déclaré que la première étape consistait à préparer les services en matière de navigation et de sécurité maritime. C'est important à faire en ce qui concerne les touristes qui visiteront. La majorité utilisera des navires de croisière pour ce grand événement. L'étape suivante consiste à fournir des besoins techniques pour soutenir cet événement. L'un d'entre eux fournit des navires de fonctionneront comme des hôtels temporaires. En plus de se préparer pour les touristes qui viendront à bateau, le ministère des Transports acceptera et soutiendra ouvertement les touristes qui viennent en avion. Ceci est soutenu par la présence de l'aéroport Sultan Mahmud Kharudin III. Le ministère indonésien du tourisme est optimiste. Le tourisme à Lampung entrera dans le top 10 aux événements touristiques nationaux. On estime le potentiel dans la région pour devenir la meilleure destination touristique au monde. Cela a été dit par le secrétaire adjoint au développement industriel et institutionnel du ministère du Tourisme, Riwut Muji Rahayu, lors du défilé culturel de Lampung à Bandar Lampung dimanche. Riwut Muji Rahayu a déclaré qu'en 2018, le ministère du Tourisme visait 17 millions de touristes étrangers et 270 millions de touristes nationaux. En 2019, il pourra atteindre 20 millions de touristes étrangers et 275 millions de touristes nationaux. Le développement du tourisme à Lampung atteindra son apogée s'il implémente et réunit Pentahelix, une activité de collaboration entre les domaines académiques, commerciaux, communautaires, gouvernementaux et médiatiques. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La prestation du contingent indonésien est très fière ». L'attention des Indonésiens et les amateurs de sport asiatique est encore aux Jeux Asiatiques 2018. La mise en œuvre des 18e Jeux Asiatiques est encore à quelques jours. Environ la moitié de 462 médailles d'or appartiennent à plusieurs pays. La Chine domine la médaille d'or. La rupture du record s'est produite plusieurs fois. Le peuple indonésien, notamment les habitants de Jakarta et de Palembang, accordait plus d'attention aux athlètes indonésiens. Le sentiment de fierté augmente dans la société indonésienne. Non seulement parce qu'elle a réussi à organiser une cérémonie d'inauguration spectaculaire et qu'elle est devenue une conversation dans d'autres pays asiatiques, mais que la médaille d'or a presque atteint le chiffre visé 16 médailles d'or. Jusqu'au 9e jour, le 26 août, le contingent indonésien a recueilli 12 médailles d'or. Il y a aussi Muhammad Sejahtera Dwi Putra qui présente de l'argent. C'est la première médaille que l'Indonésie a remportée dans le sport de tir après que la dernière était obtenue en 1966. L'Indonésie est actuellement dans le top 10. Un objectif a été atteint. On atteint l'objectif de 16 médailles d'or. De plus, le nombre de médailles obtenues a dépassé la réalisation en 2014. Lors des 18e Jeux asiatiques, l'Indonésie n'a remporté que 4 médailles d'or, 5 d'argent et 11 de bronze. Les efforts et le travail dur depuis 14 ans ont donné des résultats. Jusqu'à hier soir, l'Indonésie avait remporté 12 médailles d'or, 12 d'argent et 24 de bronze. Le contingent indonésien s'est battu de tout son cœur pour donner des médailles à l'Indonésie, surtout avec le soutien de nombreux partis, telle que la présence de ministres de la jeunesse et de sport dans le match et les compétitions pour encourager. Même le président Joko Widodo est également présent dans plusieurs finales. Ce soutien contribuera certainement à l'esprit de compétition des athlètes indonésiens. Les résultats obtenus par le contingent indonésien renforcent le sentiment de fierté de l'Indonésie lors des Jeux Asiatiques 2018. Le succès de l'Indonésie à présenter une cérémonie d'ouverture extraordinaire, à être en bon hôte et à atteindre ses objectifs, tout seront des documents historiques du jeu asiatique. Espérons que ce qui atteint au 18e jeu asiatique encouragera les athlètes indonésiens à enregistrer des meilleurs résultats, parce qu'il y a encore beaucoup de grands événements à suivre par l'Indonésie, tels que les Jeux Olympiques en 2020. Les bons résultats des Jeux Asiatiques 2018 devraient inciter l'Indonésie à devenir le meilleur en Asie, comme aux Jeux Asiatiques en 1962, l'Indonésie en deuxième position. Continuez à faire progresser le sport en Indonésie. Chers amis, c'était le commentaire.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 27 août 1939, le premier jet a été volé. Heckel He 178 est le premier avion au monde à voler avec un turboréacteur. Le vol a été effectué par la société allemande Heckel, dirigée par Ernst Haeckel, qui a développé une technologie qui vole à grande vitesse. Cet avion a volé le 27 août 1939, piloté par Erich Warzit. Précédemment, en 1936, un jeune ingénieur du nom de Hans von Ohain avait obtenu un brevet sur l'utilisation d'une turbine à gaz en tant que propulsion pour les avions à réaction. Le 27 août 1990, Ali Akbar Kaveh est décédé. Il est professeur de calligraphie iranienne. Cet artiste est né dans la ville Shiraz, en Iran, en 1271. Depuis son enfance, il reconnaissait les travaux de calligraphie et le type de lettres nasalik. Ali Akbar Kaveh peu à peu étudie ce domaine en étudiant avec des artistes célèbres tels que Mirza Tahir Khatib, Humayun Hamidani et Saifi Kazuni. Ali Akbar Kaveh a servi pendant de nombreuses années à l'Union des écrivains de calligraphie iranien et a formé de nombreux artistes. Le 27 août 1991, la déclaration d'indépendance de Moldavie. La République de Moldavie est un pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine, en Europe Est. Pendant l'Empire russe, cette région était mieux connue sous le nom Bessarabie. Après la Révolution russe en 1917, la République démocratique moldave est proclamée. Et ensuite, cette république s'est unie à la Grande-Roumanie en 1918. Le 28 juin 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie a reçu un ultimatum de l'Union soviétique. La Roumanie était obligée de rendre la Bessarabie et la Bucovine Nord aux Soviétiques pour éviter la guerre. Par la Soviétique, la région est ensuite divisée entre la République socialiste soviétique l'Ukraine et la République socialiste soviétique de Moldavie. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et la Moldavie a déclaré son indépendance le 27 août 1991. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie continue de maintenir une inflation de 3,5%. » Le gouvernement indonésien, par le biais de l'équipe centrale de contrôle de l'inflation, ou TPIP, continue de maintenir l'inflation à un niveau bas cette année jusqu'à l'année prochaine. Le gouvernement indonésien a précédemment ciblé le taux d'inflation à 3,5%, plus ou moins 1%. Cela a été déclaré par la ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, dans un communiqué de presse après la réunion de haut niveau de TPIP à Jakarta vendredi. Sri Mulyani a expliqué que chaque ministère ou agence et tous les parties prenantes, y compris la Banque d'Indonésie ou BI, avait accepté et se concentrerait sur toutes les composantes de sa inflation. Ces composantes comprennent l'inflation sous-jacente qui est influencée par le prix des biens, l'inflation des composantes volatiles ou l'inflation volatile instable, et l'inflation influencée par le taux de 100 rupiah ou l'inflation importée.
Kita fokus kepada melihat komponen dari masing-masing inflasi.
Nous nous concentrons sur les composants de chaque inflation. Cela signifie que la division entre l'inflation de base, ensuite l'inflation à contribuer de la nourriture volatile et l'inflation qui devrait provenir du taux de change sous forme d'inflation importée. Nous examinons ces trois composantes et voyons ce que nous devons savoir et nous apportons des ajustements et des mesures pour que les trois composantes ne déclenchent pas l'inflation jusqu'à la fin de l'année et nous continuerons en 2019. Comme on le sait, l'hypothèse de l'inflation que nous utilisons dans le budget de l'État 2019 est également au niveau de 3,5%. Sri Mulyani a ajouté que le gouvernement indonésien continuerait de s'efforcer de maintenir l'inflation à un niveau bas pour assurer le pouvoir d'achat de la population. La réunion de TPIP était dirigée directement par le ministre indonésien de la coordination chargée de l'économie, Darmin Nasution, en tant que président de TPIP, assisté par le gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie, Peri Warjio, la ministre des Finances, Sri Mulyani, et le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita. Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque centrale d'Indonésie, Peri Warjio, s'est assuré que l'impact de l'affaiblissement du taux de change de rupiah sur l'inflation antérieure était toujours sous contrôle. Peri expliquait trois facteurs qui le soutiennent. Premièrement, l'affaiblissement du taux de change de rupiah depuis le début de l'année jusqu'à ce jour est de 7%. Deuxièmement, le niveau de l'offre antérieure est supérieur à la demande de biens. Troisièmement, les anticipations d'inflation sont bien ancrées et mesurées conformément aux objectifs fixés précédemment par le gouvernement indonésien, à savoir 3,5%. Peri a déclaré que la Banque d'Indonésie continuait de stabiliser rupiah de plusieurs manières, entre autres en augmentant le taux d'intérêt de référence ou le taux de rachat inversé de 7 jours. L'augmentation des taux d'intérêt pourrait encourager les flux de capitaux étrangers vers le marché financier indonésien. À l'heure actuelle, selon Peri, le flux de capitaux étrangers à travers le titre d'État ou SBN pour les investisseurs à long terme a commencé à entrer. Outre d'augmenter le taux d'intérêt de référence, Peri a également indiqué que Banque Indonésie avait une double intervention sur le marché des change tout en achetant de SBN du marché secondaire. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
You're as bright as the sun. Bring your
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de La Voix d'Indonésie. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, Le Magazine Culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à voyager dans la grotte hollandaise, dans la province de Javawis. Chers auditeurs, la grotte des Pays-Bas n'est pas une grotte naturelle. Elle a été construite en creusant une colline de plus de 100 mètres. La construction de ce tunnel était initialement lancée en 1912 pour servir de canalisation pour la distribution de l'eau de la rivière Cikapundung qui coule après avoir fourni de l'énergie hydroélectrique. Quelques années plus tard, la fonction de la grotte était changée. La hauteur de la grotte a été augmentée pour atteindre 3 mètres et elle a été complétée par un réseau de 15 couloirs. Enfin, deux entrées supplémentaires ont été ouvertes mesurant 3,2 mètres hautes. Tout ceci parce que cet endroit était stratégique et caché. Ensuite, avant que la Seconde Guerre mondiale touche l'Indonésie à partir de 1981, les Néerlandais ont utilisé ce tunnel comme une forteresse ou une base militaire et comme zone de stockage de munitions. Lorsque l'armée japonaise a envahi l'Indonésie, les troupes hollandaises ont utilisé cette grotte comme centre de télécommunication militaire néerlandaise des Indes orientales. En plus de 15 salles existantes dans la grotte, vous pourrez aussi voir quelques pièces comme des chambres à coucher de l'armée néerlandaise. Ensuite, il y a aussi une cellule de prison et une salle d'interrogatoire pour les prisonnières. La ventilation est assurée par un couloir long de 126 mètres et large de 2 mètres. Si vous regardez le plafond de la grotte, vous pourrez voir l'ancien éclairage par des lampes qui ne sont plus en fonction. Il y a aussi d'autres sites intéressants que vous pourrez voir dans la grotte des Pays-Bas, comme l'ancien rail pour transporter des marchandises ou similaires qui s'étire dans le couloir et l'ancienne salle de la station de radio et de télécommunication militaire néerlandaise des Indes néerlandaises. Le tunnel principal de la grotte hollandaise est relié au site touristique de Maribaya. Là, vous pourrez admirer de beaux paysages naturels. Le tunnel de la grotte néerlandaise permet de relier la zone de Dago à celle de Maribaya, qui se trouve à Lembang. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Lembang était en fort hollandais pour défendre la ville de Bandung contre les attaques de l'armée japonaise. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à visiter cette grotte, vous pouvez utiliser les transports publics ou les véhicules privés à partir du centre-ville de Bandung. Pour visiter la grotte des Pays-Bas, vous êtes tenu de payer 7500 rupiah à l'entrée située dans la zone de Tahura parce que la grotte est située dans cette région. De l'entrée de Tahura, la distance n'est que d'environ 500 mètres, de sorte qu'il est plus amusant de marcher vers la grotte des Pays-Bas, tout en profitant de la fraîcheur du parc de la forêt de Juanda. Serviteurs, c'était notre programme pour ce soir, le magazine culturel intitulé La grotte hollandaise dans la province de Java de l'Ouest. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide à parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est que Dr Omu, ou en langue française, a un médecin généraliste. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre que Dr Omu, ou en langue française, a un médecin généraliste. Tony est malade. Joko l'a amené voir un médecin. Tony était au comptoir d'inscription et l'officier lui a demandé son identité.
Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Dokter umum.
Siapa nama Anda?
Nama saya Tony Hatfield.
Umur?
28 tahun.
Anda WNA?
Iya.
Serviteur, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir que Dr Umum, ou en langue française, a un médecin généraliste. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Anda mau berobat ke dokter umum atau ke dokter gigi? Anda mau berobat ke dokter umum atau ke dokter gigi? En français, voulez-vous aller chez un médecin généraliste ou un dentiste? Docteur umum. Docteur umum. En français, médecin généraliste. Docteur gigi. Docteur gigi. En français, dentiste. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? En français, quel est votre nom? Berapa umur Anda? Berapa umur Anda? En français, quel âge avez-vous? 28 tahun. 28 tahun. En français, 28 ans. Anda WNA atau warga negara asing? Anda WNA atau warga negara asing? En français, êtes-vous un citoyen étranger? WNI atau warga negara Indonesia? WNI atau warga negara Indonesia? En français, citoyen indonésien. Lors de l'inscription au traitement, l'officier vous demandera à remplir le formulaire d'inscription où il vous demandera l'identité. Comme dans le dialogue, en plus de votre identité, vous serez également interrogé sur le médecin en question. S'il n'y a que de médecin à la clinique, par exemple, il n'y a que des médecins généralistes et des dentistes, on vous demandera peut-être « Anda mau berobat ke dokter umum ?»« Anda mau berobat ke dokter umum ?» En français, « Voulez-vous aller chez un médecin généraliste ?» ou « Docteur gigi ?»« Docteur gigi ?» En français, « Dentiste ?» Si vous visitez une polyclinique ou même un hôpital, on vous demandera peut-être mau ke dokter apa? Mau ke dokter apa? En français, Quel médecin voulez-vous voir? Lorsque vous êtes demandé comme ça, vous pouvez répondre « Saya manque docteur. » « Saya manque docteur » en français. « Je veux voir le médecin. » Alors, mentionne le médecin que vous allez rencontrer. Exemple, « Saya manque docteur umum. » « Saya manque docteur umum. » En français, « Je veux aller chez un médecin généraliste. » « Saya manque docteur gigi. » Saya mau ke dokter gigi. En français, je veux aller au dentiste. Saya mau ke dokter mata. Saya mau ke dokter mata. En français, je veux voir un ophtalmologiste. Autre exemple, saya mau berobat ke dokter umum. Saya mau berobat ke dokter umum. En français, je veux aller chez un médecin généraliste. Saya sakit perut. Saya sakit perut. En français, j'ai mal au ventre. Saya mau ke dokter nanti malam. Saya mau ke dokter nanti malam. Je veux voir le médecin ce soir. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Anda mau berobat ke dokter umum atau dokter gigi?
Dokter umum.
Siapa nama Anda?
Nama saya Tony Hatfield.
Umur?
28 tahun.
Anda WNA?
Iya.
Serguritor, après avoir écouté la conversation ayant pour titre que docteur umum ou en langue française à un médecin généraliste, nous vous donnerons une pratique qui est bien sûr liée au mot existant appris. Cet exercice consiste à décrire votre travail en mentionnant votre nom, votre profession, votre lieu de travail, la durée de votre travail, c'est-à-dire jour, heure de travail et temps de pause. Exemple. Nama saya Andi. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai pukul 1 siang. S'examen, c'est la rubrique apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un cadeau sous la forme d'un colis attrayant pour le gagnant. Le gagnant sera annoncé en novembre 2008. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Kroncong interprétées par des chanteurs talentueux d'Indonésie s'appellent Hetikus Endang. Restez toujours avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, voici la chanson de Hetikus Endang intitulée Cinta Kita ou en français Notre Amour.
Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu, walaupun harus ku terjang lautan barat.
Voilà la chanson intitulée Cinta Kita ou en français Notre Amour, qui a été chantée par Hetikus Endang, une célèbre chanteuse indonésienne. Cette chanson de genre pop rock a été popularisée par Inka Christie et la chanteuse malaisienne Ami Serge en 1990. Cette chanson raconte de la profondeur de l'amour entre deux personnes qui sont prêtes à sacrifier n'importe quoi pour leur amour. Cette chanson a ensuite été chantée dans le genre croonchong, plus doux et plus animé. Ensuite, nous écoutons une chanson sans titre, Mahameru.
Berbakti selalu.
Les auditeurs, vous venez d'écouter une chanson intitulée Mahameru, interprétée par Hetty Kusendang. Contrairement à la chanson précédente, celle-ci est une chanson originale de Kronchong. Cette chanson raconte de la beauté et la splendeur dans des sommets de l'Indonésie, Mahameru, le nom du sommet du mont Semeru dans Java de l'Est. Tout au long de sa carrière dans le monde de la musique indonésienne, Hetty Kusendang a produit une série d'albums de divers genres. Elle a également remporté divers prix dans le domaine du chant. Pas seulement en Indonésie, elle a également gagné des niveaux régionaux et internationaux. Différents genres de chansons ont été très bien chantés, comme les chansons pop, le dangdut, les chansons folkloriques et les chansons de Kronchong. Les auditeurs, ensuite, je vais vous donner la chanson intitulée « Kaulah Segalanya » ou en français « Tu es tout » interprétée par Hetty Kusendang. Cette chanson a été popularisée par la chanteuse indonésienne s'appelle Ruth Sahanaya en 1991. Cette chanson a également mis fin à notre édition de magazine musical cette fois. Merci beaucoup pour votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Bonne écoute et à bientôt.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.